franceinter.fr.
Seriez-vous capable d'acheter une voiture programmée pour vous tuer? Question posée aujourd'hui à la Une de la Science.
Imaginez que vous vouliez acheter une voiture et qu'on vous offre le choix entre une voiture programmée pour sacrifier votre vie au profit de nombreux autres ou une voiture qui préserve votre vie à tout prix. Laquelle choisiriez-vous?
Avec les voitures autonomes qui sont donc pour demain, eh bien les constructeurs et les États vont devoir plancher sur un problème cornélien et des questions éthiques d'importance. Comment doit réagir la voiture quand elle a le choix entre écraser des piétons ou sacrifier son passager? Bonjour Jean-François Bonnefond.
Bonjour.
C'est donc cette question très sérieuse que vous posez dans une publication parue aujourd'hui dans la revue Science. Vous êtes docteur en psychologie cognitive, directeur de recherche au CNRS. Dans quelles circonstances une voiture autonome pourrait justement être programmée pour tuer son conducteur? Enfin, son passager, là, en l'occurrence, puisqu'il ne conduira pas.
Hein. Oui, c'est une erreur commune. Donc, ce qui peut se passer, ce qu'on espère qu'il ne se passera pas, mais ce qui peut se passer, c'est qu'une voiture autonome ait le choix entre deux catastrophes, c'est-à-dire qu'elle réalise qu'elle est sur le point d'écraser un certain nombre de gens sur la route et que la seule possibilité pour les sauver, eh bien, c'est de se détruire elle-même en sacrifiant son conducteur.
Mmh. Et vous avez posé la question donc à 2000 Américains, la voiture sans chauffeur doit-elle sacrifier son chauffeur pour le bien du plus grand nombre? Quelle a été la réponse des sondés?
Oui, on est curieux de savoir.
Alors, à la question vraiment, est-ce que la voiture doit sacrifier son passager, il y a un très fort consensus moral. Vraiment, les gens que nous interrogeons, en général, une opinion très forte qui nous dit qu'il faut que la voiture sacrifie le passager.
Mmh. 75% des personnes interrogées, je crois, hein, dans cette enquête.
75% des personnes interrogées, mais aussi quand on demande aux gens, par exemple, sur une échelle de 0 à 100, à quel point ils sont certains de cette réponse-là, on obtient en général du 80-90.
Est-ce que c'est dépendant du nombre de personnes présentes dans la voiture?
Alors, c'est effectivement une fonction du nombre de personnes qui sont dans la voiture et dehors.
D'accord. Ouais. Et le paradoxe apparaît donc lorsque vous leur demandez s'ils seraient disposés à acheter cette voiture?
Exactement, parce qu'il y a une position qui est morale qui est très forte. Les gens disent que la voiture devrait sacrifier son passager au profit des gens qui sont sur la route. Mais quand on leur demande s'ils souhaitent eux-mêmes posséder une voiture qui est programmée pour faire cela, eh bien ils hésitent, voire ils nous disent que non, ils préféreraient une voiture qui les protège à tout prix.
Et là, quel est le pourcentage par rapport à la première question, alors Jean-François Bonnefond?
Alors, le plus extrême, c'est quand les gens pensent à la situation où leurs enfants sont dans la voiture, par exemple. Mmh. Et là, c'est 90% qui nous disent « je préfère une voiture qui va me protéger, moi et mes passagers, coûte que coûte ».
Ouais. En combien de temps se joue le choix pour le logiciel de la voiture?
Alors ça, je pourrais vraiment pas vous le dire. En tout cas, en un laps de temps qui serait absolument impossible pour un humain pour prendre la décision.
Est-ce que vous suggérez qu'il faille légiférer sur ce genre de questions?
Alors, c'est une solution. Quand on est dans une situation où il y a une situation qui est collectivement la meilleure, par exemple, tout le monde se déplace dans des voitures qui sauvent le plus grand nombre, mais que chaque personne a un intérêt égoïste à ne pas faire l'action qui va mener à cette situation collective la meilleure, alors la réglementation, la législation, ça peut être une solution.
Oui. Ouais, ça va être très très compliqué quand même pour les constructeurs d'automobiles autonomes de faire la publicité justement de leurs véhicules, sachant justement ces conditions particulières, dans certains cas de figure en tous les cas.
Alors ça, c'est un immense point d'interrogation, c'est-à-dire à quel point la programmation des véhicules sera transparente.
Une petite question qui m'est venue. Instinctivement, un chauffeur aujourd'hui qui conduit, quel est son choix?
Ça, malheureusement, on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas de boîte noire dans les voitures.
Mm-hmm.
Donc, on ne sait pas ce qui se passe, et on ne sait même pas si le conducteur qui était dans la voiture a même réalisé qu'il était dans cette situation-là.
Mais on voit quand même qu'on a des réflexes dans certains cas. Par exemple, lorsqu'un animal traverse la route sur laquelle nous roulons, on a plutôt l'instinct de vouloir l'éviter quand même. Donc on peut imaginer que face à un groupe de personnes, on sacrifierait notre vie de toute façon par instinct, non?
Je ne sais pas si vous êtes sur une route de montagne avec une falaise à votre gauche et que vous voyez un animal qui arrive, est-ce que vous allez donner un coup de volant dans le vide? Ça, je ne sais pas. Hein,
ouais.
Est-ce que vous avez estimé la fréquence de ce genre de situation vraiment très particulière?
Encore une fois, c'est impossible à estimer. C'est impossible parce qu'on n'a aucun recul, parce que les conducteurs qui se sont trouvés dans cette situation-là, peut-être ne s'en sont pas rendus compte, parfois sont morts, et on n'a pas d'enregistrement.
En tout cas, il y aura des solutions technologiques qui seront mises au point, a priori, pour essayer de sortir de ce type de dilemme ou pas?
Eh bien, la solution, évidemment, idéale, ça serait de ne jamais se retrouver dans cette situation.
Oui, mais là, vous bottez en touche.
Donc, c'est la réponse que vont donner, en général, les constructeurs. C'est-à-dire que la priorité, ça n'est pas de décider ce que va faire la voiture dans cette situation-là, c'est de la développer à un tel point qu'elle n'y sera jamais.
Oui, mais ça, c'est pas une solution technologique. Donc, c'est juste le choix du conducteur, enfin, de la personne dans la voiture, ou de la voiture en l'occurrence.
Mais est-ce que le dilemme se résume simplement à opposer des intentions d'achat avec de la sécurité? Parce que c'est un peu ça le fond de la question.
Opposer des intentions d'achat à de la sécurité, je ne suis pas sûr d'avoir compris.
Hein. Vous dites que les personnes questionnées auraient l'intention de ne pas acheter ce type de véhicule, et s'il était programmé pour être égoïste, il l'achèterait plus volontiers. Donc c'est un problème économique au final.
Tout à fait, exactement. C'est un problème économique, et pour un gouvernement qui voudrait réguler, c'est un problème qui est vraiment très compliqué, parce que en voulant bien faire, un gouvernement qui passerait une loi qui obligerait les voitures donc à se sacrifier pour le plus grand nombre, découragerait aussi un certain nombre de consommateurs de passer à la voiture autonome, qui est quand même beaucoup moins risquée, a priori, hein, que de conduire tout seul. Donc ça veut dire qu'en essayant de sauver quelques vies par un algorithme, on pourrait se trouver responsable de milliers d'accidents qui auraient pu être évités si les gens étaient passés à la voiture autonome.
Jean-François Bonnefond, ce type de questions morales, il va falloir s'y habituer, elles vont se poser de plus en plus face à ces nouvelles technologies?
C'est très possible et c'est très nouveau, hein, parce que jusqu'ici, jamais, je pense, dans l'histoire de notre espèce, nous avons interagi tous les jours avec un objet qui peut intentionnellement nous tuer à un moment ou à un autre. Ouais. Nous possédons des objets dangereux, hein, des armes, des tronçonneuses. On peut se tuer avec si on fait une erreur. Là, c'est la première fois qu'on pourrait interagir avec un objet qui nous tue alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait.
Axel, on peut se frotter d'ailleurs au scénario,
oui.
Hein, avec un site internet.
Vous avez mis en place une plateforme où on peut se tester face à différentes situations. Ça s'appelle Moral Machine. On va mettre le lien sur la page Facebook. Vous invitez les gens à essayer. Est-ce que vous allez récolter les données pour d'autres études?
Alors, ces données-là ne nous serviront pas à des études scientifiques, mais elles pourront éventuellement nous aiguiller vers des situations que les gens ont trouvées particulièrement difficiles.
D'accord.
Donc pour ceux qui souhaitent bien tester justement leur morale face à ce type de véhicule, bien vous allez sur Moral Machine, c'est en lien sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup Jean-François Bonnefond. Merci parce que vous arrivez juste d'un vol Canada-France, donc vous êtes vraiment à la sortie de l'avion. Hein. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci Axel.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la musicothérapie utile dans le traitement de la douleur. Un projet de recherche un peu particulier mêlant médecine et violoncelle est en cours à l'hôpital Sainte-Périne à Paris dans un service de soins palliatifs. Baptisé Pansement de Schubert, une violoncelliste joue pour des patients en fin de vie. Bien qu'il ne remplace pas la morphine, ce pansement musical donc soulage et apaise. Selon les médecins, la douleur ressentie diminuerait de 10 à 30% chez les patients lorsqu'ils écoutent le violoncelle au moment de la réalisation des gestes médicaux quotidiens. D'autres applications, par exemple en gériatrie, pourraient suivre. Un microbe se nourrissant l'électricité a été retrouvée sur le plancher océanique de l'île Catalina au sud de la Californie. Selon la revue Quanta Magazine, ces microbes consomment des électrons en les aspirant, des minerais et des métaux. Bien que ce phénomène était déjà documenté, il subsistait un doute. En effet, ces microbes transportent les électrons directement à travers leurs membranes. Chose étrange, puisque ces dernières agissent comme des isolants. Les scientifiques pensent désormais avoir compris ce mécanisme. Des protéines externes jouent le rôle de messagers chimiques aidant les électrons à traverser la membrane. Et puis si vous êtes fan de Game of Thrones, vous connaissez sans nul doute Phantom, Vent Gris ou encore Nymeria, les loups géants de la famille Stark. Eh bien ces loups ont réellement existé. Nommé Canis Dyrus, cet animal préhistorique vivait au Pléistocène en Amérique du Nord il y a 125 000 ans. Bien plus gros que le loup gris, il mesure environ 1,50 m pour 80 kg, une belle bête, donc la taille d'un poney. Il possédait des dents plus grandes et plus fortes, capables de broyer des os. Il est probable qu'il n'était pas bon coureur et qu'il se nourrissait de charognes ou d'animaux peu rapides et de grande taille. Sa disparition il y a 10 000 ans reste encore un mystère.